Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En 2009, Karl Lagerfeld, vêtu d'un gilet jaune, faisait la promotion de la sécurité routière avec ce slogan « C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie ». Près de 10 ans plus tard, en 2018, des dizaines de milliers de personnes et même quelques centaines de milliers reprenaient ce même gilet pour habiller leur colère, leur désespoir ou leur révolte. Symbole aussi bien de danger que de protection, le gilet jaune devenait alors l'emblème d'une population se percevant justement comme invisibilisée et méprisée des élites politiques, économiques et culturelles. Mais qui étaient-ils, ces invisibles surgis de la masse pour occuper les ronds-points? C'est la question qu'Emmanuelle Rengoat, chercheuse en sciences politiques au CEPEL et maîtresse de conférences, s'est posée tout au long des presque 18 mois qu'ont duré ce mouvement et bien au-delà. De ce questionnement sont nées plusieurs publications scientifiques, mais aussi un film documentaire qu'elle co-réalise avec Pierre-Olivier Gomain. Pendant ces 60 minutes, il nous montre l'après-gilet jaune, ou pour reprendre leurs mots, l'empreinte que la révolte peut laisser chez celles et ceux qui l'ont vécu. Ce film, intitulé « Des goûts de lutte », a été coproduit par les films d'ICI Méditerranée, le CNRS, la MSH et l'Université de Montpellier. Après une première projection à guichet fermé au Diagonal, le film revient au Ciné-Mistral de Frontignan ce jeudi à 20h30, avant d'entamer une tournée dans l'Ouest en juin à Paris et de revenir pour une diffusion à Prades-le-Lez début septembre. Avec nous en studio, Emmanuelle Rengoat, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Alors, elle a choisi pour l'occasion un jaune plutôt fleuri avec moi pour mener cette interview comme chaque semaine, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons à SEMIPAI, le centre d'études des maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuse. Pour être plus concret, le SEMIPAI, c'est une plateforme de biosécurité de niveau 3. Comme vous allez l'entendre, on n'y entre pas sans faire patte blanche. On vous en dit plus avec Sébastien Lyonnais. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors, Emmanuelle Rengoat, 4 ans après la fin du mouvement, vous co-réalisez donc avec Pierre-Olivier Gomain ce documentaire qui se concentre sur l'après-gilet jaune, sur l'empreinte que ce mouvement a laissée chez ceux qui l'ont mené. Alors pourquoi cette question et comment est né le projet d'un film et pas d'un livre ou d'un podcast par exemple ?
Oui, alors il y aura aussi des livres qui vont sortir à l'automne, notamment un ouvrage au Cavalier Bleu qui déconstruit les idées reçues sur les gilets jaunes et un ouvrage au Croquant, plus scientifico-scientifique, qui s'intéresse à l'engagement, pourquoi on s'engage, pourquoi on se désengage, pourquoi on reste, au prisme des trajectoires biographiques. Donc il y a ce volet plus recherche classique, et c'est très bien. Et l'idée, c'était, en tout cas pour moi, de... Ça faisait plusieurs années que j'avais envie d'expérimenter des formats et des supports qui permettent au savoir, si on utilise des grands mots, de sortir des amphis et de pouvoir aussi être diffusé, accessible à un public plus large qu'un public scientifique. Donc ça, c'est le pourquoi je suis allée vers ce film. C'est aussi la rencontre que j'ai faite avec Pierre-Olivier, qui est responsable du pôle image à la MSH, donc du service audiovisuel, donc qui avait tout le savoir-faire de comment on construit un film, même si on a découvert plein de choses en même temps, ensemble en faisant ce film. Et pourquoi sur l'après ? Parce que c'est une question qui est peu traitée, parce que c'est une question qui passe sous les radars médiatiques, et c'est une question qui est hyper intéressante de savoir ce que fait la participation à un événement historique très important, et en particulier à une lutte sociale. On s'est intéressé aux gilets jaunes, et on pose cette question pour les gilets jaunes, mais le film essaye aussi d'élargir le propos sur jusqu'où ça impacte de participer pour la première fois de sa vie à une lutte aussi importante pendant plusieurs mois, et comment ça transforme le rapport, évidemment, à la politique, puisque c'est mon sujet, je suis politiste, mais aussi le rapport au monde, le regard sur soi, sur les frontières sociales, sur les autres, comment ça change la vie.
Alors dans ce film, vous nous proposez de suivre une dizaine d'anciens gilets jaunes, donc soit des individus comme Christophe ou Sandrine, ou des groupes qui sont restés liés au-delà du mouvement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous intéresser à eux en particulier ?
Alors c'est à la fois le fait que je les avais déjà rencontrés. En fait, ce film, il fait suite à une enquête sociologique que j'ai lancée et qu'on a lancée à plusieurs. On a mis en place plusieurs projets de recherche sur les Gilets jaunes. Et donc moi, de 2018 à, bon, on pourrait presque dire jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai lancé une enquête sociologique, c'est-à-dire que je suis allée voir les gens, plutôt avec une méthodologie qualitative. Donc la plupart des personnages, avant qu'on commence à filmer, j'avais déjà passé plusieurs heures dans leur cuisine parce que je travaille par récit de vie. Donc je recueille leur récit de vie pour comprendre comment l'engagement, il intervient dans leur trajectoire familiale, professionnelle, économique, géographique. Je me suis surtout intéressée aux primo-contestataires, donc ceux qui n'étaient jamais sortis dans la rue avant. Donc c'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc c'est aussi qu'il y avait déjà un lien de confiance qui a permis d'amener la caméra, parce que c'était un sacré enjeu pour tous, mais en particulier pour certains d'entre eux, que de se faire filmer, et puis pour nous aussi. Donc il y avait ce lien de confiance, et puis... de manière plus, dans une optique plus narrative, il y avait une volonté de diversifier un peu les personnages et effectivement de donner à voir des trajectoires individuelles et collectives, parce que c'est ce qui reste aussi après la lutte. Il y en a qui restent dans des collectifs et d'autres non.
Et comment est-ce qu'ils ont réagi quand vous leur avez proposé de participer à ce documentaire ?
Eh bien, je dirais peut-être avec autant d'enthousiasme que d'appréhension, selon les personnages. On a intégré la caméra très progressivement. Moi, je les connaissais déjà. Pierre-Olivier est venu d'abord les rencontrer. On est allé plusieurs fois sur le rond-point, pour ceux qui étaient encore sur le rond-point. On a beaucoup échangé d'abord. Et puis, on a aussi beaucoup filmé et beaucoup monté pour donner à voir à l'image ce qu'on a obtenu avec le film. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont... plus ou moins à l'aise avec une caméra. Il y en a qui étaient très à l'aise parce qu'eux-mêmes, il y en a un qui est photographe, il y en a un qui faisait des films, donc qui était très clair avec ce que c'est faire un film. D'autres qui étaient beaucoup moins habitués. Donc il y a eu aussi un travail de s'habituer à la caméra, s'habituer à faire une interview, presque répéter les interviews. En tout cas, on en a fait plusieurs pour avoir aussi un propos clair, construit, à l'aise devant la caméra. Puis en gros, on a beaucoup de rush, pour le dire clairement. On a filmé beaucoup. On a jeté beaucoup pour que les gens oublient un peu la caméra et qu'on rentre dans les murs et qu'ils retrouvent une certaine naturalité, une certaine aisance, quoi.
Est-ce que certains ont refusé dans ce que vous aviez choisi au début ?
Alors c'était vraiment une des craintes qu'on avait, mais il n'y a pas eu de refus. Et moi, ce qui m'a étonnée pour le coup, là un peu plus en tant que chercheuse, c'est que la caméra a même fait prendre la parole à certains enquêtés, notamment une. Donc on suit notamment un couple... voilà, donc on les filme dans leur cuisine, c'est des gens qui n'avaient jamais fait une manif de leur vie, qui trouvaient que les manifestants c'était des feignants, etc. et qui maintenant sont de l'autre côté.
On l'entend le dire d'ailleurs dans le reportage.
Oui, tout à fait, elle dit maintenant je suis de l'autre côté, voilà, pour eux c'est un vrai changement de vie, ils ont changé de réseau d'amis, etc. Et elle, c'est quelqu'un d'assez timide, hein, qui n'est pas très à l'aise avec... certains registres de parole, notamment le registre de parole qu'on est en train d'avoir là, des questions, des échanges très structurés ou des échanges argumentés où il faut convaincre. Donc elle, dans les Gilets jaunes, elle est d'abord venue en proposant des gâteaux, en faisant du thé avec ses savoir-faire à elle. Et c'est ça qui a permis aussi dans ce mouvement-là de faire venir des gens qu'on ne voit jamais dans les luttes normalement. Et donc elle avait refusé l'entretien sociologique, par exemple. Et le fait qu'il y ait la caméra, il y avait donc il y avait aussi une habitude et un lien de confiance, mais il y avait une envie de témoigner de quelque chose aussi. Et puis c'était peut-être aussi plus... clair que ce à quoi sert un entretien sociologique de faire un film, on sait un peu plus ce que c'est.
Alors on se souvient qu'une des particularités du mouvement des Gilets jaunes a été l'absence ou en tout cas le refus d'afficher des leaders et donc une certaine anonymisation du mouvement. Cette anonymisation, on la retrouve dans votre documentaire avec l'absence de bandeaux pour présenter les témoins. Pendant tout le film, on ne sait pas exactement qui parle. Alors pourquoi vous avez fait ce choix ?
Oui, alors c'est une question qu'on a beaucoup réfléchi, qu'on s'est beaucoup posé. Et qui était délicate parce que on a fait un travail de narration et un travail de montage. Donc les gilets jaunes qu'on montre à l'image, ce sont devenus des personnages. C'est pas les vrais gens qu'on a rencontrés dans toutes leurs dimensions. On en a construit un peu, si j'exagère, des paraboles pour donner à voir différents goûts de la lutte et différentes trajectoires. Donc d'abord il y avait cet enjeu-là, il y avait l'enjeu de l'anonymisation. On leur a posé la question s'ils voulaient ou pas qu'on mette leur nom. Il y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas. Donc c'était plus simple de ne pas mettre du tout leur nom de famille. Et on ne voulait pas mettre leur prénom parce que souvent, dans les traitements médiatiques des milieux populaires, on a le prénom. Et il y a un enjeu de traitement, de respect, de traitement différencié ou pas des catégories des milieux populaires. Ceci dit, donc on a aussi deux chercheuses dans le film, une historienne et une sociologue, et elles, on les a titrées, on a mis un bandeau parce que c'était important pour nous de dire d'où elles parlaient. Elles ne parlent pas parce qu'elles n'ont pas une connaissance expérimentale du mouvement, elles parlent du fait qu'elles ont des connaissances d'autres mouvements sociaux, justement. Donc on a fait ce traitement différencié, mais l'enjeu pour nous, c'était aussi de donner aux Gilets jaunes une place d'expert à la même hauteur que ces deux chercheuses, ce qu'on n'a pas fait avec le bandeau, mais ce qu'on a fait avec le dispositif filmique, c'est-à-dire que leur donner plus de temps de parole, faire des interviews face cam avec le même dispositif que celui des chercheuses, et monter des propos qui sont, à mon avis, à la même hauteur analytique que ceux et celles des chercheuses.
Alors, dans ce documentaire, parmi tous les Gilets jaunes que vous avez interviewés, on remarque qu'il y a davantage de seniors ou de retraités. Est-ce que ça reflète la composition du mouvement des Gilets jaunes, cette particularité ?
Alors non, pas du tout. C'est très vrai pour le documentaire, c'est pas représentatif du mouvement des Gilets jaunes. Et globalement, le documentaire, c'est un regard qui est proposé sur le mouvement. C'est pas non plus représentatif du mouvement des Gilets jaunes. Le fait qu'il y ait beaucoup de seniors, c'est lié alors aux personnages que j'ai rencontrés, mais c'est aussi lié au fait que c'est un film sur l'après. C'est pas un film qui documente le mouvement des Gilets jaunes, et il y en a eu beaucoup, des films qui ont fait ça très bien d'ailleurs, qui documentent le mouvement pendant le mouvement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au moment où c'était chaud, il y avait des manifs, des affrontements, beaucoup de discussions et de délibérations sur les ronds-points. Nous, c'est après. Et donc après, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il y a des trajectoires individuelles qui sont plus isolées ou qui plus simplement sont reparties vers une vie active ou une vie familiale qui fait qu'ils sont partis des ronds-points et de l'activité contestataire. Et ceux qui restent, c'est ceux qui ont du temps. En socio, on dit disponibilité biographique. Donc c'est aussi beaucoup des retraités ou des gens qui sont inactifs.
Alors votre film, il défend un parti pris, celui de s'intéresser à la sphère intime, à la vie de ces gens. Certains évoquent le fait de se constituer une nouvelle famille, d'autres, comme Sandrine, évoquent une transformation sociale avec l'entrée dans une nouvelle profession, une autre personne donc est partie dans une carrière sociale. On entend aussi un homme donc parler de son évolution sur le vote. L'entrée dans le documentaire est assez particulière, justement, avec un propos un peu, on dira pas raciste, mais un peu dérangeant. Et dont il dit qu'il s'éloigne. Alors c'est ça les Gilets jaunes, c'est l'histoire d'une transformation ?
Oui, c'est l'histoire d'une transformation. En tout cas, c'est ça qu'on a voulu, c'est là-dessus qu'on a voulu poser le regard. Et c'est ça pour les Gilets jaunes comme pour d'autres luttes sociales. Ce sont des événements, quand on s'y investit très intensément, avec le retentissement médiatique historique qu'a pu avoir ce mouvement-là, ce sont des événements qui bouleversent une vie au même titre que, et on retrouve d'ailleurs des propos assez proches de gens qui ont fait mai 68 par exemple, à l'occasion des 50 ans de mai 68, il y a eu beaucoup de bouquins, de témoignages et de qu'est-ce que c'est les conséquences biographiques de l'engagement, qu'est-ce qui se passe après, et il y a beaucoup d'échos avec les Gilets jaunes. Il y a aussi beaucoup d'échos, par exemple la sociologue, c'est Héloïse Ney dans le film, elle travaille sur les indignés espagnols, donc ce grand mouvement de place qui en 2011 est resté pendant plusieurs années, il y a des centaines de milliers d'Espagnols qui ont occupé les places publiques, et elle a fait l'enquête pour voir ce qu'il en restait 10 ans après, et il y a beaucoup d'échos. Et ce qui reste effectivement après les Gilets jaunes, comme après tous ces grands mouvements sociaux, c'est des bouleversements intimes, c'est-à-dire que ça va transformer la grille d'interprétation du monde qu'on a. C'est des révolutions intérieures, et donc ces bouleversements intimes, ils ont des effets après sur la manière de penser, et puis sur les pratiques qui se traduisent dans le travail, dans les réseaux amicaux, dans les types d'engagement qu'on peut avoir, dans les types de participation politique qu'on peut avoir, parfois aussi dans les rapports conjugaux, dans plein de sphères. Et c'est des retentissements qui peuvent être positifs comme douloureux, parce qu'on a changé la manière de voir le monde et de s'y voir et sa place.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'idée que pour beaucoup, les Gilets jaunes, ça a été une première révolte. Et dans le teaser du film, vous dites qu'ils sont entrés en politique par effraction. Est-ce qu'ils sont nombreux à avoir gardé cette prise de conscience politique après la fin du mouvement des Gilets jaunes ?
Oui, alors c'est effectivement là, pour le coup, une singularité du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on est près de la moitié, plus de la moitié au tout début du mouvement des effectifs, qui étaient ce qu'on appelle des primo-contestataires, des gens qui n'étaient jamais sortis dans la rue, qui n'avaient jamais fait une manif, ce qui est relativement rare quand même dans l'histoire des récentes, en tout cas des mouvements sociaux, surtout quand il n'y a pas de syndicats et d'organisations qui structurent. Et donc c'était d'autant plus marquant pour eux, cette expérience-là aussi, du fait que c'était nouveau. Et ce qu'il en reste, c'est toute la question du film. Mais pour beaucoup d'entre eux, en tout cas pour les plus investis, il y a une vraie transformation. Alors il y a plusieurs personnages, ça s'illustre dans le vocabulaire, il y a plusieurs personnages qui parlent d'un éveil, par exemple. Il y a un personnage qui utilise la métaphore du Père Noël, qui nous dit, bah, c'est comme croire au Père Noël quand on sait qu'il n'existe plus. On ne peut plus revenir en arrière, on sait que ça n'existe plus. Et c'est une belle métaphore pour dire ce changement de grille d'interprétation du monde. Pour le dire plus concrètement, il y a deux personnages qui expriment ça très bien, qui ont acquis une conscience de classe, par exemple. Donc qui n'ont plus une vision des rapports sociaux qui est la même. La question qui se pose pour le personnage que vous évoquiez tout à l'heure, qui est plutôt proche du FN, ou qui a un discours très critique des Arabes, de la culture arabe, etc., de l'immigration... La question
l'ancien
qui se pose,
pied noir, c'est ça,
ouais, c'est l'ancien pied noir, donc ça s'explique aussi par sa trajectoire, hein, très clairement, d'exil de l'Algérie, etc. La question qui se pose pour lui, c'est qu'est-ce qui fait l'identité collective, qu'est-ce qui fait un nous, qu'est-ce qui fait un eux, est-ce que l'adversaire c'est le migrant ou c'est le cassos d'à côté, ou est-ce que ce sont les politiques ou les financiers, etc.
Alors toujours dans cette idée de transformation, on assiste tout au long du documentaire à une évolution lexicale. C'est très présent notamment donc chez Sandrine qui, pour parler de son moi d'avant, utilise des termes comme banal, ordinaire, modeste, même la honte. Elle parle de honte et elle bascule peu à peu vers des termes où il est question de conscience. Notamment, elle dit « maintenant quand je parle, on m'écoute ». Alors vous l'avez un peu dit, est-ce qu'on peut parler donc de révolution intime et même de révélation ?
Oui. Sandrine, c'est un personnage qu'on a choisi entre guillemets parce que j'ai fait une émission de radio avec elle et que dans cette émission, elle a utilisé le terme de révolution intérieure, qui était tout à fait un thème qu'on était en train de travailler avec le film, justement, cette question, c'est quoi les effets ? Les effets, c'est beaucoup des révolutions qui sont intimes, qui sont intérieures, donc qui se voient pas. C'était tout un enjeu de les mettre en image d'ailleurs pour nous. Donc oui, c'est clairement ça l'enjeu. Et puis c'était intéressant aussi pour nous, pour le film, et puis en tant que chercheuse, de montrer combien le rapport au politique, c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose qui passe par l'affect, qui passe par les émotions, qui passe par le ressenti et le regard sur soi. Et c'est effectivement à ce niveau-là que ça fait bouger.
Alors, dans les deux expertes que vous interviewez, il y a l'historienne Ludivine Bantini et la sociologue Héloïse Ney, dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous dites que vous les avez choisies, elles, parce que c'était des femmes. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ?
Oui, alors, on a fait ce choix. C'est moi qui ai proposé, et Pierre-Olivier est tout à fait d'accord. Bah, tout simplement, en proposant une production culturelle audiovisuelle, bah, on participe à construire la représentation. Et donc, l'idée, c'était de contribuer à modifier la représentation qu'on a des sachants et de ne pas... prendre des hommes blancs de 50 ans, même s'ils peuvent être de très bons chercheurs.
En revanche, vous n'avez pas choisi de témoigner vous-même dans votre documentaire. C'était un choix aussi.
Oui, c'était un choix. Alors là, c'était un choix qui était lié aussi au fait que c'est un premier film et que il y avait des questionnements sur comment on fait, jusqu'où on accepte la part de subjectivité. Mais ce choix, il était surtout lié au fait qu'on voulait que la parole d'experts et de chercheurs, ce soit une parole qui porte sur d'autres mouvements sociaux. On ne voulait pas qu'il y ait une parole trop surplombante de chercheurs qui expliquent ce que sont les gilets jaunes alors que les gilets jaunes parlent et qu'on les voit à l'image. Donc l'idée, c'était aussi c'est pour ça que moi, je n'ai pas pris la parole, c'était de ne pas prendre des spécialistes des gilets jaunes, mais de prendre des spécialistes d'autres mouvements sociaux pour donner à voir les échos aussi entre ce mouvement social-là et d'autres.
Mais est-ce que, selon vous, du coup, les gilets jaunes, ils ont aussi transformé la manière de travailler sur les luttes sociales, qu'il s'agisse des intellectuels, des médias ou même des leaders politiques ?
Alors, je ne sais pas jusqu'où ils ont... Ça peut être vrai, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous, ils sont venus nous questionner. Ils sont peut-être venus souligner des réalités. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout travaillé dans le film, mais qu'on a travaillé un peu dans le livre qui sortira à l'automne. Parce qu'on a, donc on déconstruit des idées reçues, et donc on a plusieurs idées reçues sur le rapport des médias aux gilets jaunes, le rapport des intellectuels aux gilets jaunes. Donc ils sont venus montrer comment, quand il y a une crise politique, chacun pose un discours de légitimation ou d'illégitimation, et combien il y a encore un mépris social très très fort à l'égard des classes populaires. C'est vraiment sorti de manière très brutale au moment du mouvement des gilets jaunes. Donc est-ce que ça a transformé le regard et les manières de travailler ? Je pense en partie, mais en partie simplement. Ça a obligé les médias, en tout cas, à ne pas s'adresser à des leaders ou à des porte-parole parce qu'il n'y en avait pas, donc à faire beaucoup de terrain. Et ça a contraint aussi les chercheurs à le faire au pied levé, ce qui n'est pas du tout une habitude de recherche. Donc c'est une recherche où il y a eu beaucoup de docteurs, de jeunes docteurs, de doctorants, et où il y a eu peu au début de titulaires, parce que ce n'est pas une recherche où on a fait un projet de recherche dont on a cherché les financements, qu'on a préparé pendant plusieurs années. Et ça a donné à voir aussi combien les modes de financement de la recherche sont très peu adaptés à des événements qui surgissent. Et il y a aussi derrière des enjeux politiques. Quand des événements qui surgissent comme le Covid, il y a plus de financements qui sont déclenchés que quand ce sont des luttes sociales.
Donc on l'a dit dans l'introduction, la première projection s'est faite à guichet fermé au Diagonale, donc un vrai succès. Comment est-ce qu'il a été accueilli par le public ?
Alors il a été très bien accueilli par le public. Le Diagonale, c'était aussi un moment particulier parce qu'il y avait la grande majorité des personnages du film dans la salle, qui venaient voir le film.
C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'on entend justement dans le film, Sandrine encore, qui dit « Moi, je ne vais jamais en centre-ville, je passe mon temps dans les zones d'activité périphériques. » Donc, ils sont venus en centre-ville.
Donc, ils sont venus en centre-ville, ils sont venus en centre-ville. Et on les a invités, on était très contents de ça. Et ce qu'on voit pour l'instant, on est en train de commencer notre tournée de projection, mais c'est que... ça peut faire venir des gilets jaunes dans les salles. Alors c'est un film qui essaye de s'adresser à un public mixte, donc c'est intéressant. On a des projections où il y a des gilets jaunes, où il y a des gens plus militants, où il y a des publics plus cinéphiles, plus publics de documentaires. Et donc les réceptions, enfin les questions et les focalisations des débats après la projection sont différents selon ces publics, mais les retours sont bons. Enfin, en tout cas, ça suscite beaucoup d'échanges.
Et justement, vos projections, elles ont été suivies d'un débat. C'est dans ces échanges-là, pardon. Est-ce qu'on pourrait dire en une minute, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, que les Gilets jaunes, c'est un mouvement clos, selon vous?
C'est marrant parce que c'est une question qui est beaucoup débattue après le film. Une autre question aussi, c'est que le film pose la question de savoir ce que c'est une lutte réussie. Une lutte réussie, ça pose la question de est-ce que quand ça a transformé les gens, c'est réussi. Et c'est une des questions qui infuse beaucoup dans ces débats-là. Il est clos en termes d'importance d'un élément contestataire qui peut faire vaciller le pouvoir ou obtenir des grandes réformes sociales. Mais il n'est pas clos dans la tête des gens. Et dans la tête des gens, c'est comme mai 68, ça peut durer plusieurs décennies.
Alors, le film nous a beaucoup plu. Il y a beaucoup de tendresse qui ressort de ce documentaire. Donc on vous invite évidemment à vous rendre à la projection. Donc petit rappel, c'est au Ciné Mistral de Frontignan ce jeudi à 20h30, suivi d'un débat également.
Absolument.
Merci beaucoup Emmanuel Ringoat.
Merci à vous.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Cette semaine, direction le Centre d'études des maladies infectieuses et pharmacologie anti-infectieuse, CEMIPAI pour les intimes, une plateforme régionale de biosécurité de niveau 3. Alors Aline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, alors une plateforme de niveau 3 comme CEMIPAI, elle est utilisée pour des études dédiées aux agents pathogènes de classe 3. Donc par exemple des virus ou des bactéries qui peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme potentiellement mortelles, mais pour lesquelles il existe des traitements efficaces. Ouf.
Sinon on ne serait pas rentré.
Donc on rentre dans CEMIPAI en compagnie de Sébastien Lyonnais, qui est responsable du plateau de microscopie et qui nous présente les spécificités de cette plateforme qui est la plus grande de France en niveau 3.
Donc ça y est, Aline, elle est totalement équipée là?
Elle est presque équipée. Alors du coup, il va rester un truc à faire, c'est faire comme moi. C'est prendre la paire de gants supérieurs et la passer sur le bout de la manche, exactement, pour pouvoir protéger la peau éventuellement.
Ah, il manquait les lunettes.
Et il manque le petit accessoire, le dernier, tant qu'à faire, on est là pour le faire en entier.
On les passe dessous la charlotte ou par-dessus la charlotte?
Comme vous voulez.
C'est sympa votre boulot, c'est rapide.
Ah oui, voilà. Voilà. Donc voilà, si vous êtes prête.
Et c'est parti.
Je m'appelle Sébastien Lyonnais, je suis ingénieur de recherche au CNRS et donc je travaille sur la plateforme CEMIPAI. Donc bienvenue, c'est le plus grand P3 de France qui fait 230 mètres carrés.
Alors vous nous rappelez ce que c'est qu'un P3?
Ça sert à travailler sur des pathogènes de classe 3. C'est quoi un pathogène de classe 3? On a deux types, il y a les bactéries et les virus. Pour les virus, ça va être tous les virus mortels, mais pour lesquels il existe un traitement, un vaccin ou une prophylaxie, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait de protéger l'utilisateur lorsqu'il travaille.
Courageux mais pas téméraire, voilà. On s'est dit. Voilà.
C'est la différence avec un P4, où là ça va être plutôt des virus du type Ebola ou la variole, vraiment des saloperies qui sont non soignables. Alors, un labo P3, c'est un labo très particulier, c'est comme un sous-marin, c'est un labo qui est complètement scellé, hermétique, et qui a une dépressurisation par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est en train de pomper de l'air là, on est dans un endroit où on est à moins 40 pascal, ce qui n'est pas grand-chose, c'est comme si on était un peu en altitude. Si on ouvre les portes, et ben en fait, il va y avoir un afflux d'air de l'extérieur vers l'intérieur qui bloquera les pathogènes s'il y en avait qui avaient la mauvaise idée de voler dans le P3, ce qui n'est pas le cas. Mais pour y travailler, du coup, on va aussi avoir un équipement de protection. Donc c'est ce qu'on a mis. Donc on a mis une casaque, des surchausses, une double paire de gants pour se protéger au cas où il y aurait la première paire qui se déchirerait. Un masque de protection ultra, donc un FFP3. Et aussi des lunettes de protection, une charlotte, vous voyez, la totale équipée, pour pouvoir se promener dans ce laboratoire qui, vous voyez, est très très grand. Donc le CEMIPAI, c'est un P3 très particulier, puisqu'il est d'habitude un P3, ça va être une grande pièce où les gens vont manipuler. Nous, en fait, il est séparé en différents box. Donc c'est plusieurs pièces différentes dans lesquelles on va travailler des pathogènes différents, Et donc ça nous permet de pouvoir séparer toutes les expériences qui vont se faire. Et chaque pièce est elle-même dépressurisée par rapport au couloir central d'accès. Donc on est rentré par un premier sas où c'était dépressurisé, on s'est habillé, donc là l'extérieur est protégé. Et après quand on est rentré, il s'est passé la même chose, au cas où il y aurait encore un problème. Et après chaque box va être lui-même dépressurisé par rapport à ce couloir central. Et dans ce couloir central, on va stocker. Donc vous voyez tout ce bruit là qu'on a, c'est des bruits de congélateurs. Donc on a des congélateurs classiques comme à la maison, à moins 20 degrés. Mais on a des gros là qui sont des congélateurs à moins 80 degrés, voire même celui-là qui fait beaucoup de bruit, qui fait moins 150 degrés, qui nous permet de stocker des échantillons biologiques, notamment les virus, il faut les congeler à très basse température pour pouvoir les conserver.
J'en profite pour dire aux auditeurs de ne pas régler le son de la radio. Si le son est bizarre, c'est parce qu'on a des masques, justement.
Absolument, les masques, et puis on est juste à côté d'un congélateur qui fait un bruit. On va aussi protéger l'environnement avec la gestion des déchets. Donc vous voyez ici, là, on a ces deux espèces d'énormes choses en ferraille qui sont des cocottes minutes. On va toujours tuer avec des produits antiviraux ou antibactériens les choses sur lesquelles avec lesquelles on travaille. Mais après, ces objets eux-mêmes, des papiers, les plastiques, vont passer dans ces autoclaves, donc qui vont vous chauffer à 150 degrés à haute pression, je crois, quelque chose comme ça, qui va tuer tout ce qui sort du pétroi. Sauf nous, exactement. C'est ma collègue Christine qui s'occupe de toute cette gestion du pétroi. Donc vous pouvez voir, les pièces sont il y a différentes pièces. Donc ici, ça va être des pièces où les gens vont travailler sur des bactéries. On ne peut pas rentrer comme ça dans chaque pièce. Donc chaque utilisateur a un badge qui lui permet d'aller dans les pièces dans lesquelles il doit aller et pas autre part, excepté les responsables. Mais moi, par exemple, celle-là, c'est la pièce bactérie qui demande des autorisations particulières.
Pas.
Je ne peux pas rentrer. Moi.
À l'entrée de la pièce, il y a écrit, selon les personnes, secouriste. Il y a une formation particulière.
On peut être capable de pouvoir secourir les gens s'il y a un malaise, s'il y a quelqu'un qui se blesse. On a très souvent des exercices dans ce P3. Au mois de janvier, on fait répéter tout le monde. Et notre principale problématique, nous, c'est si quelqu'un fait un malaise, d'être capable de le sortir avec cette combinaison. Et si en plus, c'était pendant une expérience, de vérifier qu'il n'y a pas eu de contamination et qu'il s'en est pas mis partout, et que, etc., etc.
On retrouvera le Semi-Pi la semaine prochaine pour découvrir cette fois de vrais virus. Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes, ou plutôt nos invités des trois dernières minutes, Magali Teyardira et Eve Montaldi. Donc vous êtes toutes les deux, d'abord bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes toutes les deux psychologues au CRIAV, le centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, au CHU de Montpellier donc. Et vous organisez ce vendredi une journée grand public sur le thème de l'inceste. Alors Eve Montaldi, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette journée? Vous dites qu'on a encore du mal à circonscrire l'inceste aujourd'hui.
Alors, on s'est dit qu'on pouvait reparler et parler à nouveau de la question de l'inceste, puisqu'il y a eu quand même la commission de la CIVIS qui a énoncé qu'il y avait 160 000 mineurs qui étaient victimes de violences sexuelles en France par an. Et 8 fois sur 10, c'était dans le cadre de relations incestueuses, donc dans l'inceste. Donc, on s'est dit qu'on pouvait redéfinir et définir ce qu'étaient les violences sexuelles intrafamiliales sur les mineurs ou sur les enfants, et donc de parler de l'inceste entre frères et sœurs, entre mineurs, et aussi du climat incestuel. Donc toutes les différentes formes que peuvent prendre l'inceste.
Au cours de cette journée, de nombreux intervenants vont succéder, des membres du CRIAV, mais aussi un avocat, l'association Face à l'inceste, des pédiatres. Magali Teyardira, est-ce que vous pouvez rapidement nous faire un petit tour d'horizon des interventions, ou peut-être faire un focus sur un ou deux thèmes qui seront traités?
Alors oui, l'important en fait dans le choix des interventions qui a été fait lors de cette journée, c'est de se dire c'est une journée grand public, donc auquel tout le monde peut y accéder, alors professionnel, mais aussi effectivement au niveau personnel. Et du coup, c'est de pouvoir balayer le plus possible. Donc par exemple, on a fait le choix de faire intervenir un avocat, parce que finalement, même si l'inceste au niveau de la loi, ça paraît très clair, c'est pas aussi clair que ça en fait. Et donc c'est bien de pouvoir redéfinir effectivement qu'est-ce que l'inceste dans la loi, mais aussi de pouvoir parler de comment prévenir, puisqu'il y a énormément de victimes. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins de victimes, moins d'auteurs et moins de victimes. Donc ça, on demandera à Madame Chaplin, qui fait partie et secrétaire générale de l'association Face à l'inceste, de pouvoir effectivement nous parler de ça. Mais bien entendu, sur la fin de la journée, on reparlera de cette prise en charge particulière, parce qu'il faut aussi prendre en charge les victimes et les auteurs. Et ce sont des prises en charge particulières et spécifiques. Et donc Madame Dédier, qui viendra effectivement nous parler hein, de ces prises en charge-là dans les familles, puisque effectivement ça concerne la famille, et moi-même et Madame Montalti, où on terminera effectivement de nous, comment on fait aussi pour cette question du climat incestuel qui aujourd'hui est très très en vogue.
Est-ce que vous pouvez nous dire également un petit mot du CRIAV ? J'ai dit que c'était le centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, mais vous pouvez nous donner quelques petits détails peut-être ?
Alors le CRIAV, c'est d'abord une équipe, hein, donc une équipe composée de soignants, psycho et psychiatres, mais aussi d'une secrétaire, d'un documentaliste, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et parmi les missions du CRIAV, il y a ces missions de formation, d'information, de prévention, et cette journée, effectivement, fait partie de ces missions-là. On organise, en fait, chaque année, deux journées comme celle-ci, grand public, donc accessible à tout le monde et gratuite. Alors bien entendu, il faut s'inscrire via le site internet. Elles sont accessibles en présentiel, mais aussi en visio. Donc là, celle-ci est complète. Hein. On peut
et
plus
oui,
s'inscrire.
Vous avez été victime de votre succès. C'est plutôt une bonne chose.
Oui, c'est ça. Hein. Il y a plus de 900 personnes inscrites en visio. Donc effectivement, on a été un peu victime de notre succès, mais tant mieux. Sachez qu'il y en aura une prochaine sur la prévention des violences sexuelles, hein, bien entendu, en novembre. Et donc chaque année, il faut se tenir au courant. Il y a ce type de journées qui sont organisées. En plus, effectivement, de nos autres actions. Et ça, vous pouvez le trouver sur le site internet du CRIAV, qui est hébergé par le site internet du CHU.
Et donc, on pourra revoir par contre en vidéo cette journée.
Tout à fait. Elles sont enregistrées. Donc, chaque intervention est enregistrée. Bien entendu, si l'intervenant donne son accord, hein, c'est possible parfois que l'intervenant ne donne pas son accord. Mais pour les intervenants qui ont donné son accord, vous le retrouvez sur le site internet du CRIAV.
Et je vous remercie beaucoup.
Eh bien, avec plaisir.
À très bientôt. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.